Vous écoutez France Culture.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. L'écologie n'échappe pas à la règle. En France, nous sommes souvent rattrapés par de grandes questions d'actualité sans être toujours bien équipés pour les penser du fait tout simplement de notre provincialisme intellectuel, paroquialisme diraient les anglo-saxons qui souvent produisent des textes qu'il nous faut des années pour traduire. Hicham Stéphane Afessa, philosophe, spécialiste des théories philosophiques environnementales sur l'écologie, l'écosophie comme il dit, est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Mais avant, juste un écho d'une actualité encore récente qu'on doit à l'un des chercheurs français les plus passionnants d'ailleurs sur ces questions de la nature, l'auteur d'un livre politique de la nature il y a quelques années. Je veux parler de Bruno Latour. Bruno Latour qui a annoncé une création importante le 2 juillet dernier. Ça se passait dans la grande salle du centre Georges Pompidou. Conférence qui venait clôturer tout un cycle qui se titrait Selon Latour, un cycle à l'invitation du centre Pompidou pour lequel le sociologue avait invité pour 8 séances des artistes, des intellectuels pour réfléchir autour de la question de l'éloquence. Et Bruno Latour, ce jour-là, a fait une conférence le 2 juillet proposant une sorte de manifeste compositionniste, pour reprendre son terme, qui est aussi l'occasion d'annoncer la création d'un projet passionnant, une école des arts politiques qu'il fonde à l'intérieur de Sciences Po à Paris, SPIP, dit-il, Sciences Po École des Arts Politiques, en partenariat avec l'école de design de Harvard, dont le doyen était l'invité ce soir-là de Bruno Latour. Et Bruno Latour a proposé, en étant lui-même très éloquent, de revenir sur cette distinction qui mine souvent le travail, que ce soit celui des intellectuels ou des artistes, distinction qui opposerait de façon totalement artificielle la rhétorique à la démonstration et donc la politique d'un côté, les arts de l'autre. Ce sera donc des projets très concrets qui verront le jour dans cette école dont la première promotion démarrera à l'automne. Voilà, c'était une forme d'événement dans le monde intellectuel et artistique le 2 juillet au Centre Pompidou à Paris. Hicham Stéphane Afessa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez maintenant au Collège international de philosophie. Vous aviez dirigé un volume collectif paru au début de l'année, Écosophie, la philosophie à l'épreuve de l'écologie. C'était aux éditions MF, qui fait un remarquable travail d'édition, non seulement sur le fond, mais aussi pour produire des objets magnifiques que sont ces livres. Dans ce volume, on trouvait un certain nombre d'auteurs importants de la pensée écologique, philosophes pour la plupart d'entre eux, et puis aussi des plus jeunes philosophes français qui présentent ce courant de pensée qu'on connaît mal en France. Et puis là, ces jours-ci, vous publiez toujours chez le même éditeur, donc un livre aussi bien édité, La communauté des êtres de nature, donc aux éditions MF, dans lequel vous nous proposez une contribution plus personnelle sur le même sujet, c'est-à-dire, au fond, l'enjeu est assez simple, présenter en France et élaborer dessus un courant de pensée écologique qu'on, bizarrement, qu'étrangement, on connaît pas ou à peu près pas en France. Alors même, on le constate tous les jours, que l'écologie est désormais omniprésente, que les journaux sont remplis d'articles sur l'environnement, au point que vous en venez même à suggérer un moment que, à force de trop parler d'écologie, on finit par ne plus pouvoir y penser du tout.
Oui. Alors en fait, ce n'est pas si étrange que ça que le courant d'éthique environnementale soit si mal connu en France, parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique, et parce que, alors je suis navré de commencer l'émission par cette référence, hein, si j'avais su, parce que certains se sont employés à discréditer le courant, et il a fallu des années et des années pour faire comprendre qu'on avait affaire à un vrai courant philosophique, avec des gens sérieux, qui travaillent, qui avancent des idées.
Alors je crois vous entendre entre les lignes, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un livre en particulier qui a eu un grand succès, qui a même eu un prix littéraire, etc., qui est un livre de Luc Ferry qui, au début des années 90, a torpillé littéralement ce courant d'éthique environnementale.
Alors, c'est affreux. Il l'a torpillé complètement. Il l'a complètement discrédité. Et 15 ans plus tard, on en subit encore les conséquences. Quand je fais des interventions à droite et à gauche, les objections qui me viennent de la salle, et même parfois des collègues, sont directement inspirées de ce livre-là. Donc, il a fallu refaire tout un travail d'introduction. Alors, pour être tout à fait honnête, il a déjà été fait, ce travail d'introduction, par Catherine Larère, il y a un certain nombre d'années. Elle avait bien travaillé, mais je crois qu'il fallait traduire. C'est quand même la chose à faire, la première chose à faire. Il fallait traduire les textes. C'est ce que j'ai fait dans un volume intitulé « Éthique de l'environnement ». Traduire les textes clés pour donner enfin un accès à cette littérature qui avait été présentée sous un jour absolument abominable. C'est-à-dire que la thèse de Luc Ferry consiste à dire qu'avec l'éthique environnementale, on a affaire à une sorte de résurgence du nazisme. Vous voyez, il évapore avec le dos de la cuillère. Donc évidemment, quand vous agitez le spectre du nazisme, vous faites fuir tout le monde. Et c'est terrible parce que ce livre a exercé un effet de censure. Plus personne n'a voulu y jeter un œil pendant des années. Mais je crois qu'on en est vraiment sorti.
Alors laissons là Luc Ferry, laissons aussi Claude Allègre, on n'avait pas prononcé le nom. Et puis entrons de plein pied dans cette éthique environnementale. Un courant, dites-vous, qui a une trentaine d'années, on peut dire, trentaine d'années.
Voilà, vers la fin des années 70, et c'est encore un jeune courant philosophique de ce point de vue-là, il s'est formé dans les pays anglo-saxons et principalement en Amérique du Nord. Les 90% de la littérature d'éthique environnementale vient des États-Unis. Ce qui ne veut pas dire que les autres pays anglo-saxons n'ont pas apporté de contributions importantes. On pourrait citer même des penseurs australiens comme étant les premiers à avoir fait quelque chose dans ce domaine-là. Des gens comme Richard Rutler, alors c'est pas des célébrités, je sais bien, Val Plumwood, John Passmore. Il y a des Anglais qui ont travaillé aussi là-dessus. Ça s'est exporté au-delà des frontières, en Allemagne. Quelqu'un comme Dieter Binbauer, aux Pays-Bas. En France, alors là, il y a eu un gros retard. Catherine et Raphaël Larère ont travaillé dessus, Jean-Yves Goffi. Et puis là, il y a de plus en plus de jeunes gens qui travaillent sur cette question-là. Donc ça a 30 ans d'âge. Mais pour autant que je puisse en juger, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est quand même assez bien reçu, l'éthique mentale dans la communauté philosophique. C'est devenu une composante de l'institution académique, universitaire. Il y a même des chaires d'enseignement et de recherche qui sont attribuées là-bas.
Alors comment naît ce courant et comment on peut le définir, le qualifier?
Alors c'est difficile. Ça. Alors, là, tous les bons profs de philosophie, et même les mauvais, vous diront qu'il faut toujours commencer par une définition pour essayer de situer l'éthique mentale. Mais là, c'est très difficile. Mais en un sens, le fait d'expliquer en quoi c'est difficile donne déjà un accès à ce que c'est. On a du mal à définir ce que c'est que ce courant-là parce que ce n'est pas un courant homogène. Et même le singulier éthique environnementale, une éthique environnementale, c'est déjà abusif. Il faudrait dire ça au pluriel. Ce qui fait la difficulté d'une présentation rapide, c'est qu'il n'y a pas une seule proposition au sein du courant d'éthique environnementale qui n'ait fait l'objet d'une contestation. Alors évidemment, c'est quand on...
C'est un courant qui discute beaucoup.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Et avec vous inscrivez vous-même et vous discutez aussi beaucoup. Ce qui fait l'intérêt de votre livre, ce qui n'est pas qu'une présentation de ce courant,
voilà,
mais une élaboration aussi.
Voilà, j'essaye de défendre une variante personnelle au sein de ce courant-là. Mais c'est ce qui fait le charme de la philo américaine, et l'éthique environnementale est bien de là-bas. C'est issu de la philo analytique d'une certaine manière, c'est qu'ils ont le goût de l'argumentation.
Mais alors avant d'en venir à vos propositions, quels sont quand même les grands enjeux, les grandes questions dont ce courant se saisit dès le départ et avec quels outils philosophiques il les pense?
Bon alors, on peut répondre quand même en quelques mots. L'éthique environnementale propose de situer les problèmes écologiques, les problèmes environnementaux sur le terrain de la moralité. Elle considère que la régulation qui doit être mise en place dans notre rapport à la nature, c'est une régulation avant tout morale. Alors ça fait un contraste quand même très important avec ce qui se pratique en Europe et en France, parce que la régulation en Europe et en France, elle est pensée essentiellement sur le terrain politique, juridique,
scientifique,
avec le secours de l'expertise scientifique, mais on ne considère pas que les problèmes environnementaux relèvent d'une éthique environnementale. On ne voit pas ce que ça peut bien apporter que de parler d'un respect à l'endroit de la nature, de promouvoir la nature au rang de sujet de considération morale. L'éthique environnementale considère que c'est là avant tout qu'il faut le faire. Et moi, c'est ça qui me plaît. Elle a moralisé les questions de l'environnement. Enfin, l'enjeu, on pourrait le présenter peut-être comme ça, l'éthique environnementale propose de réfléchir sur les causes des problèmes écologiques qu'on rencontre. Et elle estime que les causes sont extrêmement profondes, que ce qui est entré en crise avec la crise environnementale est beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond que le seul mode de production capitaliste ou que le consumérisme propre à la manière de vivre des Occidentaux. Et si on cherche les racines ultimes de cette crise, alors on va mettre en question les systèmes de moralité. Alors, le concept clé, mais encore une fois, c'est difficile de le dire comme ça parce que ça fait l'objet d'une contestation. Le concept clé qui est mis en avant, c'est celui d'anthropocentrisme. L'éthique environnementale se demande si l'idée selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose, l'homme conçu comme une sorte de, comment dire, de chef-d'œuvre de la création, l'homme serait situé dans une sorte d'ordre de perfection, dans une échelle des êtres où il occuperait le sommet, qui lui donnerait le droit d'exploiter à volonté tout le reste de la nature. Si ce n'est pas cette idée-là qui pose problème. Est-ce que ce rapport mercenaire à la nature, cette idée sur laquelle on a la possibilité de l'exploiter, au fond la nature est un magasin à ciel ouvert dans lequel on peut puiser à volonté, est-ce que c'est pas ça la racine ultime de la crise écologique ?
Alors, vous rappelez dans le tout début, les toutes premières pages de votre livre, que pourtant, si l'on prend la peine de regarder l'histoire de la littérature ou de la pensée française, on trouve beaucoup de traces d'une centralité de la nature, comme dans toutes les littératures. En même temps, ça a l'air de s'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même généalogie que celle qui prévaut aux États-Unis. Oui. Et sans doute, ce n'est pas un hasard si c'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, surtout des auteurs américains, qui s'inscrivent dans cette tradition de Thoreau, d'Emerson, de cette philosophie américaine du 19e siècle, pour laquelle la nature est absolument centrale.
Oui, la source n'a pas pris en France. C'est très étrange parce que quand on y regarde bien, ce n'est pas les références qui manquaient et des penseurs parfois de premier plan. On trouve des intuitions écologiques et parfois pas très éloignées de l'éthique environnementale chez un Rousseau. Pourquoi la source n'a pas pris ? Parce que je crois qu'il n'y avait pas assez de sources. Aux États-Unis, les sources sont multiples. Il y a des sources littéraires que vous venez de rappeler, Thoreau, des sources philosophiques, Emerson. Il y a des sources aussi écologiques, mais l'écologie comme science. Pas le discours militant. Et si on devait faire une généalogie de l'éthique environnementale, il faudrait remonter à la seconde moitié du 19e, mais pas seulement l'Amérique de Thoreau et d'Emerson, mais aussi, alors ça c'est pas des célébrités, des gens comme Liberté Hyde-Begley, ou d'autres figures encore moins connues, qui sont des ancêtres de l'écologie. Il y a aussi des sources religieuses, il y a l'idée de la frontière qui a joué un rôle très important dans la construction de l'identité américaine. Il y a des sources qui sont tellement nombreuses que là-bas, je pense que la source a pu prendre. En France, non, ça n'a pas bien marché. On n'a pas une tradition écologique aussi forte que celle qui porte l'éthique environnementale. Vous savez, l'éthique environnementale, elle arrive vraiment au point de culmination, quoi, d'une longue tradition de réflexion écologique à laquelle il ne manquait qu'une seule chose, une philosophie.
Alors, qui sont ces auteurs anglo-saxons qui, il y a 20 ans, il y a 25 ans, commencent à réfléchir sur ces questions ? Est-ce qu'ils viennent de traditions philosophiques assez différentes les unes des autres ? Est-ce qu'ils viennent plutôt d'une philosophie très américaine et pourquoi pas pragmatiste ? Qui sont-ils ?
Alors, il y a des pragmatistes, et la figure la plus importante, c'est Brian Norton, mais ce qui fait l'intérêt, je trouve, de ce cours-là, c'est qu'ils ne viennent de nulle part. Si vous regardez sur Wikipédia, vous allez voir le lien avec la question que vous me posez, si vous regardez sur Wikipédia et que vous tapez éthique environnementale, la première ligne, c'est l'éthique environnementale est une éthique appliquée au domaine de l'environnement. Ça commence mal. Là, je ne sais pas qui a écrit ça, mais là, il ne comprend rien. Ce n'est pas possible de dire ça. Ce n'est pas du tout une éthique appliquée. L'éthique environnementale considère qu'il faut remettre en question la longue tradition occidentale, philosophique, religieuse, scientifique. Parce qu'elle se demande si le ver n'est pas dans le fruit, s'il n'y a pas quelque chose qui, dans cette tradition qui l'affecterait d'un biais anthropocentrique. Du coup, vous ne pouvez plus puiser dans cette tradition les éléments qui seraient susceptibles d'apporter une solution à la crise écologique. Il faut se méfier. Pour vous donner un exemple, vous vous souvenez peut-être de la page célèbre de Descartes, le révérend père Bourdin demande à Descartes, mais c'est quoi cette méthode du doute ? Elle est brutale, elle est excessive, elle est abusive. Pourquoi tout remettre en question ? Et Descartes dit non, ce n'est pas abusif. Imaginez que dans un panier de pommes, vous ayez une pomme pourrie. Qu'est-ce que vous allez faire pour la repérer ? Vous allez vider tout le panier sur la table et puis vous allez remettre les unes après les autres, les pommes dans le panier, en vérifiant bien que vous n'avez pas dans la main la pomme pourrie. Eh bien, les spécialistes d'éthique environnementale font la même chose. Ils considèrent qu'on ne peut plus puiser dans la tradition, dans aucune philosophie, dans aucune éthique existante, pour élaborer donc une éthique environnementale. Il va falloir se méfier de tout. Ce que pas dire que tout est bon à acheter, mais il va falloir y regarder à deux fois. Donc, ce n'est pas une éthique appliquée. L'éthique appliquée, elle applique le modèle de l'une des morales qui existe déjà à des problèmes nouveaux. Elle ne fait pas ça, l'éthique environnementale. Justement, il y a une suspension de toutes les éthiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas puiser après coup, mais elle va se méfier.
Voilà, pour la question des racines, au fond, de cette éthique environnementale, qui essaye de s'en affranchir, au moins dans un premier temps, dites-vous. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'inverse, c'est-à-dire de ce que cette éthique peut produire, en particulier politiquement, parce que quel rapport, quel lien peut-on constater entre ces penseurs, ces textes, et puis le mouvement écologiste tel qu'il se manifeste dans des associations, alors il prend des formes très variées d'ailleurs, tel qu'il peut s'institutionnaliser plus ou moins politiquement selon les pays.
Alors c'est l'objet de la critique de l'éthique environnementale en France, par ceux qui cette fois-ci la connaissent un peu mieux. Je trouve que c'est pas une critique mauvaise pour une fois. Il est vrai que sur le terrain de la politique, les éthiciens d'environnement brillent pas. Brian Norton, donc un des spécialistes d'éthique environnementale, qui est le guide d'escadre du pragmatisme écologique, considère que l'éthique environnementale a échoué sur le terrain politique et qu'il faut donc changer complètement son fusil d'épaule, qu'il faut accepter de s'asseoir à la table des négociations, qu'il faut chercher des compromis, parce que sur le terrain politique, pour l'instant, ils n'ont pas brillé. Mais je ne suis pas certain que la critique, en tout cas formulée comme ça, soit vraiment pertinente, parce que le projet de l'éthique environnementale, c'est un projet de réfléchir sur des causes. Alors, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à la position de Socrate. Lorsque Socrate pose une question, il réfléchit sur les conditions sous lesquelles la question a un sens, les conditions sous lesquelles il est possible de lui répondre, et qu'à la fin, il ne répond pas à la question, les interlocuteurs sont énervés en disant « Mais Socrate, tu te moques de nous, tu as une réponse à ta question. » Socrate n'a pas de réponse à donner. Il n'a pas de mesures concrètes à proposer pour transposer. Il essaye de réfléchir sur les causes profondes, il essaye de produire de l'intelligibilité. Bon, cela étant dit, même si c'est vrai que sur le terrain politique, on ne voit pas bien les propositions qu'il peut formuler, il y a tout de même eu un impact. Si on regarde dans la Convention internationale de la biodiversité, je ne me souviens plus exactement du titre, qui est un texte européen qui a valeur contraignante, on retrouve l'un des concepts clés de l'éthique environnementale qui est celui de valeur intrinsèque. L'idée sur laquelle les espèces ont une valeur intrinsèque. Donc, cet argument est toujours cité, c'est Callicott qui le dit en disant c'est pas vrai. On a eu un petit impact quand même. Nos réflexions ne sont pas des réflexions creuses.
À vous entendre, Hicham Stéphane a fait ça, on se dit qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de racines philosophiques très très évidentes, mais quand même, il y a des résonances avec autre chose qui par exemple, moi ça me fait penser beaucoup aux travaux récents de Bruno Latour, cette critique de l'anthropocentrisme, cette façon de considérer comme des objets tout à fait légitimes, des éléments de la nature ou des objets tout simplement au même titre que les hommes.
Alors oui, il y a des points de contact. Et je suis navré de voir qu'ils s'ignorent. Pour Bruno Latour, me semblait être un des plus proches en France à pouvoir entendre ce discours-là. Et c'est pour ça que dans l'autre livre que j'ai publié, intitulé « Qu'est-ce que l'écologie ?», j'ai choisi deux textes à la fin et j'ai essayé de les mettre en résonance en laissant au lecteur le soin de percevoir cet écho-là. Un texte de Bruno Latour et un texte de Brian Norton. Il y a des vraies résonances entre les deux. Il y a moyen de les faire dialoguer. Mais ce dialogue ne s'effectue pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ne discutent pas les uns avec les autres. Mon projet, c'est ça, au fond. C'est d'intégrer l'éthique environnementale dans le discours écologique. Et c'est de construire un espace d'interlocution commun. Enfin, ils discutent les uns avec les autres. Il y a dans les différences d'approche de part et d'autre de l'Atlantique matière à s'instruire. Il y a des points de contact qui sont évidents. La discussion doit pouvoir se dérouler. Elle ne s'est toujours pas faite pour l'instant.
Alors, Hicham Stéphane a fait ça. Le livre que vous venez de citer, c'est un livre « Qu'est-ce que l'écologie ?» qui a paru chez Vrin, dans la petite collection « Chemin philosophique » de Vrin. De même que celui que vous aviez cité auparavant, dans lequel vous aviez proposé des traductions de ces auteurs. Autre question, quel rapport de tout ça avec ce dont on entend parler parfois aussi en France, mais qui reste aussi très méconnu, qu'on appelle la « deep écologie » ?
Ah, question difficile. Alors, la deep écologie est-elle une variante d'éthique environnementale ? Il y a beaucoup de variantes d'éthique environnementale, je le disais au tout début, c'est un courant philosophique qui n'est pas du tout homogène, c'est complètement éclaté. L'image la plus juste, c'est nébuleuse. Vous avez l'écoféminisme, le biocentrisme, le pluralisme, le pragmatisme, etc. Est-ce que la deep écologie tient là-dedans ? C'est pas certain. Alors, là-dessus, on ne s'entend pas entre lecteurs d'éthique environnementale. Moi, je considère que ce n'est pas une variante d'éthique environnementale parce que l'approche est très différente. Ernest est un métaphysicien. Il est d'accord avec les spécialistes d'éthique environnementale sur pas mal de points.
Ernest est le fondateur de cette deep écologie. Hein.
Alors, c'est étrange qu'on dise fondateur, je répondrai à ça juste après. Il s'entend sur pas mal de points et considère aussi que ce qui est rentré en crise, ce sont les systèmes de moralité. Et lui aussi, il parle d'égalitarisme biocentrique, de holisme. On retrouve même le concept de valeur intrinsèque. Donc, on se dit à première lecture, bon, ben, c'est pareil, c'est bonnet blanc. Mais non, en fait, je trouve que c'est très différent. Parce qu'il considère que ce n'est pas sur le terrain de la moralité qu'il faut chercher à résoudre le problème de la crise écologique, c'est en passant par une modification de la représentation métaphysique que l'homme se fait de lui-même, la place qu'il occupe dans la nature. Et il pense que par la bande, si l'homme en vient à se penser autrement, s'il en vient à passer sa place autrement dans sa nature, on aura modifié son comportement. Donc la stratégie me semble quand même très différente. Et je trouve qu'il n'y a guère eu de dialogue, même entre eux, entre Erninès et les spécialistes d'éthique environnementale. Alors, pour revenir au point sur le fondateur, c'est étrange qu'on on le présente comme étant le fondateur, parce qu'il n'y a pas d'école de deep ecology. Erninès est le seul penseur. Il est le seul auteur. Alors, il y a des gens qui sont réclamés de lui, mais il est remarquable que Erninès ne les cite pas. Il n'est pas du tout intéressé par ce qu'ils font. Alors, ils ont le droit de se réclamer de ses travaux, mais enfin, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Dans toutes les œuvres complètes de Erninès, ça tient en 10 volumes, enfin, ce n'est pas vraiment des œuvres complètes, c'est des œuvres choisies. J'ai trouvé un seul compte-rendu de quelqu'un qui se réclame de ses idées, qui s'appelle Warwick Fox, et le compte-rendu n'est même pas favorable. Donc, en fait, il n'y a pas d'école. Ce n'est pas la psychanalyse, hein, ce n'est pas la phénoménologie. Il est tout seul.
Alors, vous avez fait un double travail, je le disais. Hicham Stéphane a fait ça, à la fois de lecture de tous ces auteurs qui composent 16 éthiques environnementales, je mets le pluriel, en essayant de les présenter, de présenter aussi leurs débats internes, présenter certes les critiques qui leur sont adressées de l'extérieur, mais celles plus intéressantes à vos yeux, qui émanent de l'intérieur de cette école ou de ce courant de pensée, c'est plus un courant de pensée qu'une école même. Et puis vous avez fait un autre travail qui est vous-même de prendre part à ce débat et de critiquer, de proposer. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, et c'est assez technique, mais quelles sont pour vous les choses les plus importantes, celles auxquelles vous tenez le plus, je dirais, et qui relèvent de l'ordre de cette contribution personnelle?
Je reprends à mon compte pas mal de propositions. Je trouve pertinente la critique de l'anthropocentrisme. Je trouve que c'est intéressant. Alors, il ne s'agit pas de présenter, encore une fois, la tradition philosophique comme étant un bloc monolithique, tout ça mettre dans le même sac, mais il est intéressant d'effectuer cette recherche, cet examen du biais anthropocentrique. Donc ça, je reprends complètement à mon compte cette proposition. Et la proposition la plus personnelle que contient le petit livre « La communauté des êtres de nature », alors c'est compliqué, c'est de considérer qu'il faut mettre en place une pluralité de critères, alors je vais le dire de manière technique, je vais essayer de m'expliquer après, une pluralité de critères de considérabilité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un critère de considérabilité? On se pose la question de savoir quels sont les critères qu'un être ou une entité doit satisfaire pour faire l'objet d'une considération morale. À quelles conditions est-ce qu'on doit mettre en place des restrictions normatives dans notre rapport avec des êtres ou des créatures naturelles? La thèse qui est la plupart du temps défendue en éthique environnementale consiste à dire qu'il faut inventer un critère, mais suffisamment large pour y inclure les animaux, les entités du monde naturel telles que des plantes ou des ensembles naturels tels que des écosystèmes. La thèse que je défends, mais je ne peux vraiment pas l'expliquer dans son détail, c'est qu'il ne faut pas passer par un seul critère, mais par une pluralité de critères. Alors, l'objection majeure qu'on pourrait m'adresser, mais on dirait que c'est de la sophistique. Si on change de critère à chaque fois qu'on a affaire à un être différent, c'est plus de la morale. Le propre de la morale, c'est que justement, on se tient à un seul principe et qu'on ne retourne pas sa veste. Alors j'essaye de répondre à cette objection. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une pluralité de critères, de considérabilité, tout en construisant une morale consistante? C'est ça le projet de la communauté des êtres de nature.
Mais alors pourquoi il est vain, selon vous, d'essayer d'avoir un seul critère qui vaudrait aussi bien pour les hommes que pour les animaux, les plantes et le système solaire
Pour deux raisons. Parce que d'abord, ça ne marche jamais. Il n'y a aucun critère qui fonctionne vraiment, qui soit réellement inclusif. On en laisse toujours un certain nombre sur le bord de la route. C'est ce que j'essaye de montrer. Même la morale, je vais citer un des théoriciens d'éthique environnementale qui s'appelle John Baird Caldicott, qui a inventé peut-être le système le plus inclusif, le plus compréhensif. Et j'essaye de montrer que même dans ce système-là, on en laisse un certain nombre sur le bord de la route. Et je pense qu'intuitivement, on a souvent le sentiment, et c'est l'une des thèses que je défends dans le livre, on a le sentiment qu'on a encore des devoirs à l'endroit d'un certain nombre de créatures et d'êtres. Et si on les laisse sur le bord de la route, sans réussir à s'imposer des règles de notre comportement, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème avec cette morale. Il faut la réévaluer, il faut la réeffectuer. Bon, voilà la première... Première raison. La seconde raison, c'est que je pense que il y a des différences phénoménologiques qu'il faut prendre en considération. Un être sauvage, une créature sauvage, un animal sauvage, c'est pas la même chose qu'un animal domestique. Il y a des différences de contextes sociaux. On évolue dans des contextes sociaux complètement différents. On a affaire à des êtres qui sont fondamentalement distincts. Et je crois qu'il faut essayer de répercuter cette différence réelle dans les principes de moralité que l'on se donne.
Alors, on parle d'éthique depuis tout à l'heure. Peut-être on se pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas ce dialogue entre Bruno Latour et ce courant, par exemple. Mais peut-être ça tient en fait que le titre du livre de Bruno Latour, c'était « Politique de la nature ». Et que cette dimension politique est encore extrêmement présente chez quelqu'un comme lui. On n'en trouve pas tellement trace dans votre réflexion de la politique, du politique. Qu'est-ce que vous en faites, Hicham-Stéphane a fait ça.
Alors, si, j'ai un point d'échappée vers la politique quand même. C'est dans les toutes dernières pages, c'est le concept d'indécidable que j'emprunte à Derrida. Et chez Derrida, c'est un concept qui est susceptible d'être mobilisé dans un contexte politique. Le concept d'indécidable, c'est l'idée selon laquelle la condition de possibilité de toute prise de décision réellement morale, c'est d'une certaine manière l'impossibilité de cette décision. C'est-à-dire qu'on n'a pas un programme à dérouler. On ne sait jamais ce qu'on doit faire. On ne sait pas exactement ce que l'on doit aux autres êtres. On ne sait même pas face à quel type d'être on a réellement des obligations. On est toujours dans l'indécidable. Et ce concept de politique d'indécidable peut faire l'objet d'une réinterprétation. J'espère, mais je ne l'ai pas encore fait, dans un contexte politique. J'ai un point d'échappée quand même. Alors c'est le travail à venir maintenant.
Dans l'autre volume, celui qui avait paru au début de l'année, la philosophie à l'épreuve de l'écologie, écosophie donc, néologisme, contraction, qui s'utilise
C'est de Hernines, c'est lui qui a inventé le mot. Il appelle ça écosophie T. Alors bon, moi je trouve que le mot n'est pas très joli, on l'a repris parce qu'on trouvait que c'était original pour faire le titre d'un livre. Non, je ne l'ai trouvé que sous la plume d'Hernines, là je réfléchis, je crois que non, il n'est pas repris en éthique environnementale.
Alors, vous avez choisi dans ce volume collectif d'associer, bon, certes, beaucoup de philosophes, mais il y a quand même quelqu'un comme Augustin Berk, par exemple, qui est orientaliste, géographe, mais il y a aussi Raphaël Herrer, qui est sociologue. Donc, qu'en est-il des liens que vous pouvez tisser avec d'autres disciplines? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ces questions ailleurs? Que dit Berk, par exemple, de tout ça? Pourquoi se retrouve-t-il dans un volume que celui-là?
J'avais le sentiment qu'il avait une pensée globale d'un rapport au monde, à la Terre, l'idée que l'être humain doit se penser lui-même comme étant un habitant du monde et qui pouvait être intéressante parce qu'il y a un lien, encore une fois, avec l'éthique environnementale. Il ne s'agit pas de dissoudre tout, de nous plonger dans une sorte de soupe primitive en disant que nous sommes des êtres de même statut, de même nature que les autres êtres, les autres entités du monde naturel. Mais il s'agit de nous resituer sur un plan total, sur un plan global. Et la tentative d'Augustin Berk va en ce sens. Du coup, j'ai voulu que le texte apparaisse en tout premier lieu. L'idée de restituer un individu dans une totalité, dans un milieu global, enveloppant, c'est une idée qui est élaborée en éthique environnementale avec d'autres moyens.
Écosophie, la philosophie à l'épreuve de l'écologie, c'était donc ce volume collectif que vous avez dirigé, Hicham-Stéphane Afessa, aux éditions MF. Et puis, la communauté des êtres de nature, c'est ce volume que vous signez cette fois tout seul, toujours aux mêmes éditions MF, qui est votre contribution, votre présentation de ce courant de l'éthique environnementale. On a essayé d'en donner aujourd'hui un premier éclairage à la suite dans les idées. Il est assez méconnu encore en France, mais il semble qu'il y ait d'assez nombreux jeunes chercheurs qui s'y mettent, espérons-le, parce que ça ouvre des pistes de réflexion très, très passionnantes. On trouve toutes les références bibliographiques sur le site de la suite dans les idées. Merci.
Je vous remercie.
C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Anne-Catherine Lochard, à la technique Martin Delafosse, à la réalisation Jean-Christophe Francis. La semaine prochaine, à la suite dans les idées, on évoquera le très très beau dernier numéro de la revue d'histoire Annales, qui est consacré aux relations entre l'histoire et la fiction. Et c'est Frédéric Aïtouati qui sera l'invité de la suite dans les idées pour parler de l'article qu'elle a donné à ce numéro et plus largement de l'ensemble de ce numéro de la revue d'histoire. À 12h30, dans quelques instants, le journal sur France Culture.